En 2020, nous commémorons le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc, une double canonisation, pourrait-on dire, ecclésiale et républicaine. Ecclésiale parce que l'Église l'a déclarée sainte en 1920, républicaine parce que Jeanne d'Arc a été reconnue par la République comme une grande figure nationale et une fête nationale a été instituée. C'est d'ailleurs une date extrêmement importante puisque la reconnaissance de Jeanne d'Arc comme action nationale et comme figure nationale fait partie des rares lois qui ont été votées à l'unanimité sous la Troisième République. C'est donc une personne qui a joué extrêmement un rôle extrêmement important dans l'histoire de France, un rôle politique, un rôle militaire également, et c'est à ce rôle militaire que nous allons nous intéresser cette semaine, puisque il y a bien évidemment parmi les actions militaires de Jeanne d'Arc la levée du siège d'Orléans, la bataille de Patay, ensuite l'action qui a été menée par Paris. Et nous allons évoquer cette semaine d'abord la bataille de la Loire, la campagne de Loire avec la levée du siège d'Orléans, qui est l'événement le plus célèbre et qui a contribué à la renommée de Jeanne d'Arc. Pour en parler, je reçois cette semaine Mgr Dominique Letourneau. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Vous
avez publié plusieurs ouvrages sur des sujets spirituels et religieux, mais également sur Jeanne d'Arc. Vous publiez cette année chez l'Harmattan un ouvrage qui s'intitule « Jeanne d'Arc et l'éveil du sentiment patriotique royal national ». Et puis vous avez publié aux éditions Desclée des Brouwers un dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc qui fait 2000 pages. Donc il y a tout Jeanne d'Arc, quasiment tout Jeanne d'Arc. Un dictionnaire donc de multiples entrées et d'ailleurs, et on va commencer par là, mais en feuilletant ce dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc, on est surpris de l'extrême diversité des thèmes, c'est-à-dire qu'on retrouve bien évidemment Orléans, on retrouve bien sûr la guerre de Cent Ans, mais on se rend compte aussi que la musique a été imprégnée par Jeanne d'Arc, l'art, l'architecture, et puis que Jeanne d'Arc est également présente au-delà de la France. C'est pas simplement une figure française, mais d'ailleurs vous aviez consacré un article dans Conflit, le Conflit du mois de janvier, sur la renommée internationale de Jeanne d'Arc. On se rend compte qu'aux États-Unis, en Europe, en Asie, il y a également une présence de Jeanne d'Arc.
Tout à fait. Surprenante peut-être, mais on voit en Jeanne d'Arc un personnage extraordinaire. D'abord c'est une femme, ça joue aussi, mais qui n'a pas son égal dans toute l'histoire de l'humanité et qui défend son pays, qui le libère. Et c'est ça qui fascine beaucoup de pays à l'étranger depuis très longtemps d'ailleurs, parce que ça se traduit déjà par les opéras, par les pièces de théâtre, etc. Et alors, Jeanne d'Arc, effectivement, est un personnage emblématique. Son parcours d'héroïne nationale n'est compréhensible que si on voit bien qu'elle est envoyée par Dieu et qu'elle a une dimension spirituelle fondamentale dans sa vie. Sans cette dimension-là, elle n'existerait pas, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Elle dit elle-même « j'ai tout fait par mandement de Dieu ». Donc tout ce qu'elle fait, c'est Dieu qui lui suggère dans ce qu'elle appelle son conseil. Quand il dit « quel est votre conseil ?»« Mon conseil, c'est Dieu ». Voilà. Alors, la campagne de la Loire, en fait, ce n'est pas la délivrance de l'Orléans. Il y a d'abord la délivrance d'Orléans, puis la campagne de la Loire. Je veux dire par là qu'elle entre d'abord, après obtenu d'être envoyé à Orléans, elle entre d'abord à Orléans avec un convoi de ravitaillement Orléans qui est assiégé depuis 7 mois par les Anglais, qui est entouré d'une ceinture de bastilles, c'est-à-dire de fortifications, et qui est sur le point de tomber. Si Orléans tombait, les Anglais allaient à Bourges et le reste de la France disparaissait. Il n'y avait plus de France sur la carte de l'Europe. Il faut bien voir cela. La situation était absolument dramatique. Et elle, en 3 jours, elle rétablit totalement la situation, elle libère Orléans. 3 jours de combat, elle subjugue les chefs militaires, les soldats la suivent comme un seul homme, elle dynamise la lutte, et en 3 jours, c'est emporté. Alors après, elle voudrait que Charles VII se rende, ou du moins le dauphin Charles se rende à Reims pour se faire sacré roi, mais il hésite encore, m'a conseillé comme souvent, comme toujours d'ailleurs, il hésite encore parce qu'il est vrai que ça demande un trajet assez long au travers d'un pays qui est aux mains des Anglais et des Bourguignons, leurs alliés, et que les villes de Troyes, de Châlons, de Reims ont bien promis de se défendre bec et ongles. Alors, il demande d'abord qu'on libère la Loire qui est encore occupée. Bon, les arrières seraient été occupées encore par les Anglais, c'était assez gênant de fait. Et donc, Jeanne d'Arc y va, et sa stratégie va être extrêmement intéressante parce qu'elle va, en une semaine cette fois-ci, prendre quatre villes, et anéantir deux armées anglaises, et donc libérer totalement la Loire. Et une fois qu'elle a libéré la Loire, alors à ce moment-là, on pourra effectivement aller sur Reims. Donc, si on reprend un petit peu la levée du siège d'Orléans, Jeanne d'Arc arrive le 29 avril 1429 dans la ville. Et il y a un convoi qui doit venir la renforcer un peu plus tard, et donc qui arrive le 4 mai. Jeanne d'Arc se rend à l'approche de la troupe royale avec ce qui vont dire ses fidèles compagnons La Hire et Florent d'Illy et plusieurs autres et Jean d'Aulon. Et cette expédition de 250 hommes seulement, avec 150 hommes d'armes et des archers, du bétail et la provision, porte en tête les bannières et chante des cantiques. Ils vont passer au pied des bastilles anglaises avec toute l'artillerie qu'ils ont. Il n'y a, comme elle l'avait prévu d'ailleurs, comme elle l'a annoncé, parce que c'est aussi significatif, Jeanne d'Arc annonce beaucoup de choses qui vont se passer après. J'ai relevé 73 prédictions et prophéties de Jeanne d'Arc accomplies. Comme elle avait annoncé, ils passent sans un coup de feu, sans une goutte de sang versé. Les Anglais sont comme tétanisés, alors qu'ils sont 10 fois plus nombreux qu'eux. Ils sont comme tétanisés, ils restent immobiles, comme enchaînés, dit une chronique du temps. Comme enchaînés. Le 4 mai, Jacques se repose et les Français ont commencé à une bataille, sans la prévenir. C'est ses voix qui la réveillent. Elle y va et les Français étaient déjà en train de battre en retraite. Quand elle n'est pas là, ils battent en retraite. Quand elle est là, c'est la victoire. Alors elle est ressaisie, fait se ressaisir, et elle emporte une première Bastille le 4. Le 5 mai, c'est la solennité de l'Ascension, donc on fait la trêve et on prie. Le 6 mai, elle reconduit ses troupes à la bataille et remporte une deuxième victoire de la Bastille des Augustins. Et puis, le lendemain, pardon, le lendemain, c'est la troisième bataille. Alors là, elle est blessée. Après 12 heures de lutte, elle est blessée. Donc, elle avait pris d'ailleurs la veille qu'elle serait blessée. Elle est blessée. Donc, on veut battre en retraite. Elle dit non. Elle arrache elle-même la flèche qui l'a blessée, ce qui est extraordinaire aussi. Elle se met à l'écart pour prier. Et puis, elle dit on y va. Tout est nôtre, entrez-y. Et de fait, la Bastille qui est la plus importante, qui est considérée comme imprenable, eh bien, est remportée et détruite le jour même. Et donc, en 3 jours, Orléans est délivrée. Elle rentre et fait chanter. Elle va se diriger vers l'église, la cathédrale Sainte-Croix, pour faire chanter un Te Deum de délivrance. Et le lendemain matin, eh bien, l'armée anglaise quitte ses positions et va se replier sur la route de Main. Main-sur-Loire. En 3 jours, il a suffi de 3 jours pour résoudre des problèmes qui semblaient absolument impossibles à vaincre.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a 17 ans, elle est née en 1412,
Elle a
exactement
17 ans.
1429, donc elle est extrêmement jeune. C'est la première fois qu'elle livre une bataille ou elle a déjà mené des combats auparavant?
Ben, jamais de sa vie. Elle a 17 ans. Quand ses voix lui disent qu'il faut aller libérer Orléans et conduire le roi sacré à Reims, elle dit, je ne sais ni A ni B, je ne sais pas lire, je ne sais rien, j'ai aucune instruction, ne connais que son notre père, son nous salue Marie, je crois en Dieu, je ne sais pas chevaucher, donc elle ne sait pas aller à cheval, elle va pourtant faire de vos couleurs jusqu'à Chinon en 15 jours, en 11 jours, 150 km à cheval, je ne sais pas conduire une armée. Et quand elle arrive là, elle se déclare chef de guerre. Et ce qui est saisissant, si on peut comprendre, elle arrive à comprendre immédiatement la situation. On peut imaginer, quand elle arrive à Orléans, qu'elle voit qu'il y a deux verrous qu'il faut faire sauter à savoir Compiègne et Orléans, pour ensuite aller délivrer Paris. Ça, les chefs militaires n'ont pas vu. Pour eux, c'est absolument fondamental. Il faut d'abord faire sauter Orléans, on fait sauter Compiègne ensuite, et après on va à Paris. Immédiatement, elle capte la situation. Et après ça, elle a une capacité de subjuguer et d'enthousiasmer tout le monde, y compris les Anglais. Les Anglais sont subjugués. Ils sont extraordinairement saisis par elle. Mais que du coup, tout le monde la suit. Même la résistance du côté des courtisans du roi Charles VII. Mais voilà, elle est capable de. Elle est vraiment assez bien comme chef de guerre et avec une capacité à gérer les conflits que les chefs de guerre les plus exercés, les plus, eh bien, ne sont pas capables de réaliser. Par exemple, quand elle est dans sa campagne de la Loire, elle a une armée de 2000 hommes environ qui se trouve face à un contingent anglais fort de 5700 hommes soldats distribués, à vrai dire, en plusieurs places. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Le coup que fait la Loire entre Châteauneuf et Beaugency forme un arc de cercle dont Orléans occupe le centre. Et les quatre places fortes anglaises ennemies sont réparties en chapelets. Jargeau est une vingtaine de kilomètres à l'est, Main est en aval à peu près à la même distance, au sud-est de Beaugency à 8 kilomètres de plus en aval, plus bas en aval. Bon, et c'est un ensemble stratégique complexe qui a une unité propre et méritant d'être traité comme tel. Que fait Jeanne d'Arc? Elle part le 11 juin pour remonter par Romantin sur Orléans, où elle établit sa base d'opération, par conséquent au centre du dispositif ennemi. Elle attaque donc avant toutes ses forces d'abord Jargeau. Elle repasse par Orléans pour se réapprovisionner. Elle fonce sur Main, sur Loire, et son fortifié, puis sur Beaugency. Il faut réagir rapidement avant l'intervention des rapports, des renforts annoncés du côté anglais. Donc, on assiste, d'après des militaires, à la création, à l'invention d'une stratégie typiquement révolutionnaire, dont la puissante armée des capitaines anglais Suffolk, Scales, Talbot et Falstaff va fournir le champ d'expérience et faire les frais. Et Jeanne va se battre comme Bonaparte le fera en 1796 en Italie et Napoléon en 1814 dans la bataille de France. Ce sont donc successivement des batailles victorieuses de Jargeau le 12 juin, Main-sur-Loing le 15, Beaugency le 17 et Patay le 18 juin. Patay qui est une bataille extraordinaire aussi. Donc les leçons de la campagne de la Loire sont multiples. D'abord, elle excelle dans la stratégie du combat sur les lignes intérieures, en plaçant au centre du dispositif ennemi pour l'attaquer en état d'infériorité numérique une place l'une après l'autre. Jeanne conduit une bataille de mouvement, ce qui met véritablement fin à la conception de la guerre de position caractérisée par de longs sièges. Elle révolutionne l'art de faire la guerre. Il ne faut pas l'oublier, elle révolutionne l'art de faire la guerre. Patay est une bataille de rencontre au cours de laquelle tout se joue dans l'improvisation sous l'initiative des chefs en présence. Patay est aussi le type même de la bataille en rase campagne, où les qualités du chef prouvent, par la judicieuse combinaison des éléments de la manœuvre, le choc, le mouvement, le tir, la surprise, la concentration, la coordination des moyens et les modalités d'application, et par son intention, ses modalités et son résultat, Patay est aussi une bataille d'anéantissement pour éliminer tout retour possible sur les places de la Loire, où il y a d'ailleurs, nous avons un ratio de morts qui n'existe nulle part dans l'histoire, de 1 à 3 morts côté français et 3700 du côté anglais. Et comme le général Beaufre l'écrira, la guerre de Cent Ans n'a été qu'une longue guérilla dont l'événement final a été le miracle psychologique de Jeanne d'Arc. Donc voilà, c'est absolument impressionnant. Patay s'inscrit en lettres de feu dans les annales de l'histoire. Et Jeanne d'Arc avait dit, et d'ailleurs demandé à ses chefs, avez-vous de bons étriers? Et ils ont demandé, comment, nous allons battre en retraite? Non, non, c'est eux qui vont battre en retraite. Et il va falloir les poursuivre, pour ça, il va falloir de bons étriers pour les poursuivre. Encore une annonce de la part de Jeanne d'Arc qui s'est accomplie.
Alors, on va revenir justement sur la bataille de Patay, qui est extrêmement importante, mais ce que vous montrez bien, c'est que Jeanne d'Arc a une véritable vision militaire, elle a le sens de la stratégie, et elle contribue à renouveler l'art de faire la guerre. C'est pas simplement une jeune fille qui est sur un cheval et qui par son aura pourrait galvaniser les troupes. C'est véritablement un chef de guerre et c'est une personne qui conduit l'armée, qui a une vision stratégique et qui ordonne le fonctionnement des opérations.
Ah, totalement, totalement. Et elle, c'est que, et les chefs eux-mêmes le reconnaissent. Ils disent que c'est que, elle a, elle est capable de faire des choses que seul un capitaine blanchi sous le harnais qui est 30 ans d'expérience est capable de faire. Elle le fait. Et elle le fait sans problème. Elle le fait, et elle le fait avec une rapidité qui déconcerte. Quand il s'agit d'aller sur Reims, donc je disais que, tout à l'heure qu'il y a les places sont toutes décidées à se battre énergiquement, et donc les chefs se concertent entre eux avec Charles VII, avec le futur Charles VII, et décident d'attendre d'avoir d'obtenir des renforts. Et alors elle dit non, non, croyez-moi, vous les aurez sans effusion de sang, vous rentrerez dans deux jours vous y serez dedans. Effectivement, les places se rendent les unes après les autres. Donc, elle les convainc qu'il faut y aller en dépit de tout. Il faut la suivre, parce que vous avez été à votre conseil, dit-elle, moi j'étais au mien, il est meilleur, parce que son conseil c'est Dieu, et c'est lui qui prévaudra. Donc on finit par lui faire confiance, et de fait, tout s'arrange. Donc, il y a les batailles au début, et après, il n'y a plus de bataille. À partir de la campagne de la Loire, les villes s'ouvrent les unes après les autres. D'abord pour aller à Reims, et une fois qu'il sera parti de Reims et qu'il va commencer, toutes les villes vont s'ouvrir les unes après les autres devant Charles VII. S'il avait voulu, s'il n'avait pas été temporisé et suivi les conseils de ses politiques à lui, eh bien, il serait rentré dans Paris très rapidement. C'était possible. Les renforts anglais n'auraient pas eu le temps d'arriver. Et Paris était remporté. Bon, c'est une autre affaire, mais du point de vue stratégique, Jeanne d'Arc est extraordinaire. Et alors, ce qui était peut-être encore plus surprenant, c'est qu'elle a une maîtrise surprenante de l'artillerie. Jeanne d'Arc est encore récente, l'artillerie a été inventée à peine à la fin du XIVe siècle, et elle n'a pas fait de grands progrès en 30 ans. Donc, on rencontrait guère d'officiers capables de pointer une pièce et de diriger à coup sûr des feux convergents sur un corps arrêté ou sur une brèche à ouvrir. Or, la Pucelle d'Orléans, elle, n'est pas embarrassée du tout. Pour établir une batterie devant Jargeau, au siège de Troyes ou ailleurs, et même devant Paris, et elle surprend tout le monde par la promptitude de son coup d'œil et par l'audace joyeuse de ses résolutions. Elle est passée maître, selon l'expression du duc d'Alençon, qui était un de ses grands fidèles compagnons, dans l'artillerie. Et le fait est qu'elle sut utiliser cette arme au maximum. Elle sépare l'artillerie lourde de l'artillerie légère, et donne à cette dernière une application qu'elle n'a jamais connue jusqu'à ce jour, la contre-batterie, c'est-à-dire des tirs d'artillerie amie sur l'artillerie ennemie. Que ce soit en artillerie d'accompagnement, en artillerie de préparation, en artillerie tirant démolir, en artillerie de contre-batterie, Jeanne en fait toujours un usage judicieux et par grande masse, a laissé rêveur les artilleurs de notre époque, on dit des généraux actuels. Le général Canonge s'exprime ainsi, par exemple, disant « Faire la brèche sur le front des attaques, ouvrir le chemin à l'infanterie, le tenir libre une fois ouvert, se sacrifier au besoin pour lui permettre de remplir son œuvre, surveiller les batteries et les contre-batteries de l'ennemi, voilà ce que Jeanne exigea de ses artilleurs. » Et qu'elle obtint, avec des succès évidents. Et la bataille de Pathé, entre autres, qu'on a évoqué tout à l'heure, fut incontestablement la première bataille de l'histoire où l'on vit l'utilisation de l'artillerie d'accompagnement de la cavalerie et aussitôt après la préparation d'artillerie contre les retranchements de campagne. Le prince Napoléon, Louis Napoléon, relèvera en 1851 dans une étude sur le passé et l'avenir de l'artillerie, le soin justement que Jeanne d'Arc avait apporté à l'emploi de l'artillerie. Disons-le, donc en l'honneur de l'arme, c'est autant au progrès de l'artillerie qu'à l'héroïsme de Jeanne d'Arc que la France est redevable d'avoir pu secouer le joug étranger de 1428 à 1450. Voilà. Donc c'est important, c'est aussi cet aspect de l'utilisation de l'artillerie qui est tout à fait novateur dans les combats de l'époque.
Et effectivement, et Pathé, c'est la revanche sur Azincourt, c'est-à-dire que pour la première fois dans la guerre, la chevalerie française l'a emporté sur les Anglais, les archers anglais ont été vaincus, et ça a vengé ou ça a lavé l'honneur de Crécy, d'Azincourt, qui ont été une série de défaites pour l'armée française, et enfin, celle-ci l'a emporté. Et Pathé marque aussi un tournant dans cette guerre de 100 ans, puisque l'archerie anglaise n'apparaît plus comme invincible, et désormais les Français prennent le dessus sur l'armée anglo-bourguignonne.
Oui, Pathé, ça lave la honte d'Azincourt, de Poitiers, de Crécy, de Rouvray, etc. Tout engagement précédent était un échec. Non pas que nos hommes ne se battissent mal, mais ils se battaient très bien et avaient des très bons chefs, mais voilà, le sort des armes était contraire. Et ce qui peut être qu'il y avait un découragement considérable, parce que tout un engagement qu'on faisait tournait au vinaigre. D'ailleurs, c'est un engagement raté que Jeanne d'Arc dont Jeanne d'Arc a eu connaissance par ses voix, qui a décidé, Baudricourt, à vos couleurs, de l'envoyer, de Niscope pour aller à Chinon. Parce qu'elle lui annonce une défaite qui vient d'avoir lieu, dont il n'a pas connaissance. Et si vous ne m'envoyez pas, ça va être encore pire. Effectivement, quelques jours plus tard, il a la nouvelle qui est confirmée, et du coup, il s'est dit, mais non, comment je peux peut-être savoir, une petite campagnarde peut savoir ça, ça ne peut venir que de Dieu. Donc, il l'envoie, et avec une aide pour le dauphin. Donc, Pathé est extrêmement important de ce point de vue-là, ça l'a, effectivement, alors, changement de code de stratégie, évidemment, parce que là, les archers, ils sont beaux être au carré, etc., ça ne sert à rien. La stratégie de Jeanne d'Arc est différente, est-ce avoir une avant-garde, les flancs couverts, etc. Tout ça fait que on ne se bat plus à l'avant, comme autrefois.
Et, ce qui est assez aussi extraordinaire dans la vie de Jeanne d'Arc, on va arriver ensuite à la bataille de Paris, mais c'est de voir que ça se fait sur un temps extrêmement bref. La libération d'Orléans, c'est le mois de mai 1429, Pathé, c'est juin 1429, Paris ensuite en septembre 1429, et elle est arrêtée en mai 1430, donc son action militaire n'a duré qu'une année à peine.
Son action militaire, si je me rappelle bien, son épopée a duré 527 jours. Et dans les 527 jours, il faut dire que à partir de Reims, elle est totalement bloquée. Si elle échoue, si elle va échouer peu à peu, et la plupart du temps, c'est parce qu'on l'interdit au départ de battre. À Paris, ça échoue la première journée, mais elle veut repartir. Elle a préparé un pont pour traverser la Seine, mais le roi fait détruire le pont pendant la nuit, et donc elle abandonne. Et la force à s'arrêter. Donc, si elle échoue après, c'est parce qu'on lui donne plus les moyens, en hommes et en matériel, pour continuer la guerre. Donc elle a un succès à Saint-Pierre-le-Moutier, mais elle a échoué dans la Charité sur Loire, etc. Donc c'est pas faute de pouvoir y arriver. C'est parce qu'on l'entrave totalement. Et c'est plus grande difficile bataille. Ce sont les batailles contre les courtisans de Charles VII. C'est pas sur la guerre. Elle y va, elle remporte ses victoires. Donc en fait, 527 jours, mais en réalité, c'est beaucoup moins. C'est 3 jours sur Orléans, une semaine sur la campagne de la Loire, et après, ce sont plus des combats. Ce sont des victoires, les unes après les autres, mais qui sont remportées par sa simple présence et par sa force de persuasion. Donc c'est absolument fulgurant et aucun chef de militaire ne pouvait imaginer, parce qu'il n'avait pas réussi lui-même, à ce qu'on puisse libérer Orléans et en 3 jours et surtout qu'on puisse prendre la Bastille des Tourelles la troisième jour. Celle-là, il voulait encore arrêter, il voulait encore louvoyer et attendre que des renforts arrivent. Non, on allait dire on y va, il faut y aller, on y va et on la remporte. Parce qu'elle l'avait prédit qu'on la remporterait en plus, qu'elle rentrerait le soir même par le pont principal dans la ville d'Orléans. Donc voilà, c'est une force d'en haut qui lui vient, c'est toutes ces connaissances stratégiques, militaires, tout ça, ça lui vient d'en haut, hein, ce sont ses voix qui la guident, encore une fois, elle ne fait que ce que Dieu lui fait savoir par ses voix. Et c'est la victoire, forcément. Mais il ne faut pas oublier non plus que tout ça, elle appuie sur l'assistance à la messe quotidienne et la communion, sur une confession très fréquente, sur la prière constante, et que Jargeau, par exemple, son armée va à Jargeau confesser et communier. Donc avec ça, on assure la victoire. Donc c'est pas des soldats, simplement de simples soldats qui vont là, c'est des soldats qui étaient des soudards, qui étaient des espèces de bandes qu'elles convertissent et qui deviennent de bons chrétiens et de bons catholiques et qui vont à la victoire de ce point de vue-là. Et elle peut pleurer, elle va pleurer sur les morts anglais parce qu'ils sont morts sans être confessés. Ça fait partie de la piété de Jeanne d'Arc. Et elle va s'arrêter pour de se descendre de cheval pour soigner un soldat anglais blessé qui est sur le point de mourir, le baron dans ses bras, pleurer sur lui, le faire confesser, etc., avant qu'il meure. Voilà. Donc.
Alors, l'opération de Paris maintenant, donc nous
Oui.
sommes le 8 septembre 1429, Paris est aux mains des Bourguignons, et c'est la capitale, bon, même si le roi de France est itinérant, c'est quand même la capitale de la France, et c'est là où se trouve le Louvre, donc c'est évidemment une place importante à prendre et à libérer. Comment est-ce qu'elle conçoit l'attaque contre Paris parce qu'à Orléans, la ville était aux mains du dauphin, donc il s'agissait de libérer le siège. Là, en revanche, la stratégie est autre, il faut entrer dans une ville qui est tenue par l'ennemi.
Alors, là, une tactique absolument exemplaire. C'est impressionnant. Il faudrait disposer d'une carte de Paris, des cartes de Paris de l'époque, pour se donner une idée, et côté un peu Paris aussi pour comprendre, mais enfin, malgré tout, cette tactique, l'assaut va être infructueux le premier jour, et par la suite, je vais l'expliquer, mais cette tactique dénote une maîtrise de la stratégie militaire, et vous allez voir pourquoi. Le point d'attaque qu'elle choisit est un pont de la muraille entre la porte Saint-Denis et la porte de Montmartre, sur la portion ouest de la rive droite de la Seine. Elle couvre son flanc droit en s'assurant du méandre de la Seine de Saint-Denis à Sèvres. Ses arrières sont protégées par l'occupation des positions et des forteresses de Montmartre, Monceau et au nord-est Aubervilliers. Elle place son artillerie au marché aux pourceaux. Côté est, un groupe d'intervention est prêt à charger contre une sortie éventuelle des assiégés sur son flanc gauche. Donc, elle fait preuve d'un art consommé tel qu'un capitaine de grande expérience, Blanchet-sous-le-Harnais, l'aurait fait. C'est absolument extraordinaire. Donc, dans les feux de guerre, dira le duc d'Alençon, j'en étais fort experte, tant pour porter la lance que pour réunir une armée, ordonner un combat ou disposer l'artillerie. Tous s'émerveillaient de voir que dans les choses militaires, elle agit avec autant de sagesse et de prévoyance que s'il était un capitaine ayant guerroyé 20 ou 30 ans. C'était surtout au maniement de l'artillerie qu'elle s'entendait. Mais n'oublions pas qu'elle n'avait aucune formation. Les autres chefs militaires, bah oui, ils n'avaient aucune formation. On pourra, par exemple, comparer Jeanne d'Arc éventuellement à Bonaparte, le Bonaparte de la campagne d'Italie. Mais en 1429, la pucelle sortait de la campagne ne savait ni un ni b. En 1797, Bonaparte était sorti des écoles militaires. Il faisait ses premières armes, mais il était déjà un vétéran. Elle, pardon, pas, elle faisait ses premières armes, mais lui était un vétéran. La veille, elle était occupée encore aux soins du ménage, elle gardait ses brebis, elle filait sa quenouille. Lui était officier depuis 10 ans. Il portait l'épée, il était général. Elle n'avait pas 18 ans, lui il en avait 28. Donc tout ça, il ne faut pas oublier que si elle réalise des merveilles, etc., mais c'est qu'elle sort de sa campagne et qu'elle n'est qu'une petite paysanne. Et qu'elle commande l'armée, les armées, et que tout le monde suit. Et que ça lui réussit et qu'elle a une vision stratégique extraordinaire. Que seuls, encore une fois, des soldats, des capitaines vétérans ont pu acquérir.
Et ce que vous montrez justement, c'est que là où elle a échoué, c'est parce qu'on lui a un peu, enfin, on l'a empêché d'agir. Le roi de France, vous l'avez dit, a détruit le pont, enfin, fait détruire le pont qu'elle avait construit. Donc, on lui a mis des bâtons dans les roues et finalement, on ne l'a pas écouté ou on ne l'a pas assez suivi.
Ah oui, non, c'est effectivement, déjà avant. C'est bagarrer constamment pour obtenir que Charles VII accepte d'aller à Orléans, d'abord la libération d'Orléans, puis d'aller à Reims, parce qu'il est timoré, parce qu'il est indécis, parce qu'il est mal conseillé par Renaud de Chartres et la Trémouille. Donc, et eux, évidemment, ils sont extrêmement jaloux. D'abord parce que la Trémouille, il marche, si je puis dire, des deux côtés. Il a une situation ambiguë. Bon. Donc, on comprend d'une certaine façon qu'il puisse être jaloux de toute la gloire qui lui revient à Jeanne. Mais Charles VII met plutôt l'accent sur, mal conseillé pour cela, justement, sur le fait de négociation. Il espère obtenir de Philippe de Bourgogne qu'il vienne de son côté, qu'il revienne de son côté. Et Philippe Le Bon, non pas Philippe Le Bon, excusez-moi, j'ai oublié son nom maintenant, mais il va le rouler dans la farine en réalité, il va le tromper, il va faire alliance avec les Anglais dans son dos, et donc il va être nommé gouverneur de Paris. C'est quand même extraordinaire au moment où il va tenir des trêves sur trêves qui sont une catastrophe. Et Jeanne d'Arc, dans le dos de Jeanne d'Arc, et Jeanne d'Arc se rend bien compte que si on fait des trêves les unes après les autres, dans lesquels on exclut d'employer des engagements militaires contre ces villes-là, et bien c'est fini, elle ne peut plus rien faire. Et on a Cluj Compiègne là-dedans, hein, donc alors qu'il y a le verrou qu'il faut faire sauter. Donc on met les bâtons dans les roues, on ne donne pas de. Et finalement, elle s'en va à un moment donné avec quelques-uns de ses hommes et ses chefs pour guerroyer de son côté, sans l'avis du roi. Elle part de la cour, et là où elle obtient une bataille, une victoire et puis un échec, même deux victoires et un échec. Mais c'est parce que et ce sont des villes de France qui vont lui envoyer à sa demande qui de l'argent, qui du salpêtre, qui des munitions, qui etc. pour l'aider un peu, mais elle s'appuie en fait sur la province à ce moment-là, et pas sur la cour, hein, pas sur les moyens auxquels elle aurait eu droit. Hein. Mais donc voilà, et en même temps on comprend que si elle était restée simple chef de guerre. Eh bien, son aura était bien moins grande que si elle n'avait été prisonnière et brûlée par les Anglais à Rouen. Ça donne une bonne dimension à la sainteté et à la personnalité de Jeanne d'Arc bien, bien plus grande encore. Si elle était repartie comme elle le souhaitait, vivre à Domrémy et auprès de sa mère et continuer à filer de la laine et à les brebis, elle aurait été bien différente. Elle a beaucoup moins d'importance que si elle n'avait pas été, si elle avait été brûlée.
Les héros doivent avoir une destinée tragique pour que ça rehausse leur héroïsme ou leur vie également. Est-ce que la stratégie de Jeanne d'Arc a été étudiée ensuite dans l'histoire? Est-ce que des généraux ou des chefs militaires importants se sont inspirés de ce qu'elle a fait, comme
Je pense
aujourd'hui
que.
par exemple on étudie Napoléon?
Oui, je pense qu'elle a été étudiée. Elle était certainement étudiée à une époque, assez longtemps, mais elle ne l'est plus malheureusement. Je me suis mieux informé auprès d'officiers. Elle ne l'est plus de nos jours à l'école de guerre, par exemple. Alors que pourtant, je pense que ça vaudrait la peine, peut-être pas pour en tirer des conséquences directes de nos jours, parce que la guerre a changé, la façon de faire la guerre a changé, mais pour montrer quand même comment elle a fait connaître, subir une évolution extrêmement importante à la guerre, avec l'usage de l'artillerie, la façon de ses stratégies, ça mérite quand même au moins qu'elle soit mentionnée pour ne serait-ce que pour savoir un peu ce qu'elle a fait. Ça me paraît important. Mais enfin, ça n'est plus étudié de nos jours. Il faut dire que la guerre de nos jours est quand même beaucoup plus une guerre électronique, en bonne partie. Moins sur le terrain, tactique de l'artillerie sur le terrain, ou l'avant-garde. Elle sait faire des mouvements tournants la nuit. Alors, c'est quelque chose qu'à l'époque, on ne faisait pas. Hein. Elle prépare les choses, elle organise les batailles. Hein. C'est assez remarquable. Hein. Et elle ne laisse pas de trêve, de repos. Hein. Et on prend quelque chose, le lendemain, il faut y aller. Il ne faut pas attendre encore 2 jours, 3 jours, d'un lendemain, on repart. C'est l'usure en même temps, hein, et rapidement, c'est fulgurant. Un peu comme Bonaparte a été très, très rapide, mais elle est encore plus. D'ailleurs, il y a une phrase qui est remarquable d'un général russe, qui c'est le général Dragomirov, qui est décédé en 1955, donc c'est récent, hein, qu'il dit que en comparaison les exploits de Jeanne d'Arc en comparaison de ben, les campagnes de César et de Bonaparte apparaissent poussives. Alors pour nous c'est apparemment dans l'histoire on a toujours dit que c'était des très rapides. Mais non, elles sont poussives parce que celles de Jeanne d'Arc sont fulgurantes. C'est dans quelques jours, tout est réglé. Et un chroniqueur de l'époque, qui n'était pas du tout, qui était bourguignon dans l'âme, écrit que nul ne redoutait autant chef de guerre que cette pucelle. Alors, comme un chef de guerre, vraiment, chevronné, habile, le plus redoutable. Voilà, donc ça c'est vraiment Jeanne d'Arc.
Et Ce qui est également intéressant dans l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est de voir comment elle a été une figure du patriotisme au-delà des problèmes politiques. La France est extrêmement divisée au XIXe siècle avec différentes traditions politiques et spirituelles. Et elle a été un facteur d'unité républicain, monarchiste, catholique, anticlérical. Tout le monde s'est retrouvé autour de Jeanne d'Arc et en a fait une figure du patriotisme.
Oui, et puis d'ailleurs c'est Auguste Comte qui en 1848 demande qu'on institue une fête nationale de Jeanne d'Arc. C'est repris en 1878 par Jules Favre, un éminent représentant de la gauche franc-maçonne et libre-penseur. Et c'est eux qui vont les premiers militer pour qu'il y ait une fête nationale de Jeanne d'Arc en France. Et ça, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que pas encore l'Église entreprendra de faire canoniser Jeanne d'Arc, ce qui va être commencé en 19, le procès va être, du moins la demande va être déposée en 1869, et c'est seulement en 1894 que Jeanne d'Arc va être déclarée vénérable, son procès est en cours, est engagé, donc elle devient vénérable à ce moment-là. Les francs-maçons vont freiner des quatre pieds. Et vont s'opposer totalement à ce que on continue à demander, ce qui est une fête nationale de Jeanne d'Arc, qui font capoter les projets. Ça sera repris qu'après la Première Guerre mondiale. Mais elle, déjà, enfin, c'est qu'en 1429, donc au début du XVe siècle, la France est sur le point de disparaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'État, en tant que pays, mais elle est morcelée. Il n'y a pas de Français. Il y a des Armagnacs, il y a des Bourguignons, il y a des gens, des seigneurs qui tirent chacun la ficelle de leur côté et essayent de s'approprier des fiefs à droite et à gauche au détriment de la couronne royale. Plus de la moitié du pays est aux mains de l'étranger. Il n'y a pas d'argent. Les paysans sont dans la misère absolue, au point de voir, disent certains d'entre eux, on va aller vivre avec les bêtes comme les bêtes. Il n'y a plus de moissons. Il y a la peste. À Paris, il y a 50 000 morts de la peste. L'insécurité absolue, les soldats, ce sont des pillards qui mettent tout à feu et à sang. Enfin, c'est une misère épouvantable, une catastrophe totale. C'est une misère, misère absolue. Jeanne d'Arc arrive et tout le monde se regroupe autour d'elle. Elle fait naître le sentiment d'appartenir à un pays, la France, et c'est extraordinaire. Et les soldats, les petits seigneurs arrivent auprès d'elle avec leurs hommes. À son service, prêt à se battre sans payer, gratuitement, alors que ces armées vivent de traitements qu'on leur donne. Donc, et un engouement et une sens de la France qui naît, et c'est vraiment le sentiment patriotique commence véritablement avec Jeanne d'Arc. On appartient à un pays. Et ce pays va se reconstituer auprès du roi, auprès de Charles VII. Et tout ce qu'elle est, effectivement, et ça va jusqu'à aller jusqu'en 1450 et quelques, où Paris va être reconquis. Il restera plus que Calais, pendant quelques temps encore, qui sera aux mains des Anglais, mais toute la France est réunie autour du roi. C'est un aspect qu'on ignore peut-être, mais qui est extrêmement important, de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, non seulement libère Orléans, fait couronner le roi, fait partir les Anglais en France, et révolutionne le sens de faire la façon de faire la guerre, mais est aussi celle qui fait naître le sentiment patriotique en France.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir évoqué Jeanne d'Arc et son rôle militaire important. Vous nous avez montré à quel point celle-ci a joué un rôle extrêmement important dans la stratégie et également dans cette campagne de France. Je rappelle donc l'ouvrage que vous avez consacré à Jeanne d'Arc, le dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc, qui fait 2000 pages. Donc, il y a largement de quoi faire pour tous ceux qui aiment Jeanne d'Arc pour retrouver l'ensemble de son œuvre. Ouvrage que vous avez publié avec Pascal Raphaël Ambrogi aux éditions Desclée de Brouwer. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de Conflit. Et puis, vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque, bien évidemment, ainsi que sur notre site internet. Merci pour votre fidélité et à bientôt.
Merci.